Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Quelles sont les news du cloud et du DevOps en ce mois de février 2024? Aujourd'hui, rideau pour Waveworks, des news de JetPorch, le successeur d'Ansible, Google qui veut améliorer l'interopérabilité entre Rust et C++, et santé et souveraineté numérique. Tout ça, on va le voir dans cet épisode de podcast.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bienvenue à toi, cher compagnon, dans Actu DevOps, ton émission de veille Cloud DevOps mensuelle. Et comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir tous les outils qu'on t'a dégotés, les co-animateurs et moi. Avec moi, ce soir, pour parler Actu, j'ai Damir. Bonsoir, Damir.
Bonsoir et bonjour à toutes et tous.
Il y a aussi Erwan. Bonsoir, Erwan.
Bonsoir.
Et enfin, René. Bonsoir, René.
Bonsoir à toutes et tous.
Alors, je le répète peut-être pas assez, mais chacun, on a un épisode de podcast d'interview que tu retrouves dans les notes de l'épisode ou dans l'article de blog. Si tu veux en découvrir un peu plus sur chacun d'entre nous, bah tu peux aller dans ces épisodes de podcast et aller les écouter. Alors, je vais commencer par la traditionnelle rubrique de vos messages, donc les messages des auditrices et auditeurs. Alors, il y en a quelques-uns ce soir, et j'aimerais commencer par vous lire un message qu'Anonyme, parce que quelqu'un d'anonyme nous a laissé sur le site des questions. Le site des questions, c'est questions.compagnon-devops.fr. C'est un site que tu peux utiliser pour poser n'importe quelle question, ou même suggérer des sujets, ou communiquer avec moi si tu veux. Donc, Anonyme me demande pourquoi faire du « forcing » entre guillemets avec Apple Podcast, tout le monde n'a pas Apple. Alors, Anonyme, sache que c'était pas vraiment du forcing, mais bon, c'est vrai que pendant un long moment, je savais pas où trouver les commentaires d'Apple Podcast, et quand j'ai commencé à les trouver, j'ai vu qu'il y en avait plein. Donc, c'est vrai qu'il y a eu 3 émissions avec des commentaires Apple, mais bon. Maintenant c'est fait, j'arrive à lire les commentaires Apple, et puis d'ailleurs moi aussi je suis pas sur Apple, je suis sur Android avec Podcast Addict, et justement ça me fait une transition toute trouvée pour la suite des messages qui viennent de Podcast Addict, suite à mon appel du dernier épisode de podcast où j'ai demandé à la commu des Podcast Addict de laisser plein de messages. Vous êtes motivé, vous avez laissé plein de messages et je vais vous en lire quelques-uns. Florent CPT qui nous laisse 5 étoiles et nous dit « Super podcast pour se tenir informé dans le monde de la tech dans un format clair, intéressant et digeste. Continuez comme ça avec le symbole, l'emoji parfait. » On a aussi Virge 5 étoiles qui nous dit « Toujours aussi intéressant. » Steph 34 avec 5 étoiles, merci pour les news. Du coup, c'est vrai que il y a pas grand chose à dire sur ça, mais moi ça va me faire vous poser 2 questions à vous trois. La première, c'est quoi votre application d'écoute de podcast et est-ce que vous en écoutez? Et la deuxième, c'est justement vous, est-ce que vous laissez est-ce que vous laissez des messages au podcast que vous écoutez ou au contenu que vous regardez ou lisez par exemple? Allez, je vais donner la parole tout de suite à Erwan, comme ça, il n'y aura pas d'hésitation.
moi, j'écoute effectivement les podcasts, et dont le nôtre, quand j'y participe pas, sur Deezer, et je en profite pour faire un coucou à mes anciens collègues.
Je prends la suite. Moi, de mon côté, je suis comme Christophe. Podcast Addict, parfois Spotify, mais c'est assez rare. C'est généralement quand on me recommande un podcast, où il y a des podcasts qui sont malheureusement locked sur une plateforme. Mais sinon, oui, Podcast Addict. Et en général, moi, je suis plutôt consommateur silencieux. Après, j'ai une particularité, je ne consomme pas de podcast tech, ou quasiment pas, c'est exceptionnel, dans la mesure où j'écoute des podcasts pour me changer un peu les idées et faire autre chose. Donc en général, c'est plutôt hors de ça, sur des sujets un peu plus exotiques.
Et pour terminer, bah moi en fait, je comme Erwan sur Deezer, sachant que, sauf si je me trompe, on peut pas laisser de commentaires ou de notes sur les podcasts. Donc c'est vrai que ça c'est un peu dommage. Et parfois aussi sur YouTube, donc avec en le mettant en fond. Et parfois ça m'arrive de laisser quelques messages, mais c'est vrai que c'est assez rare.
C'est vrai qu'en effet, je crois qu'on ne peut pas laisser de message sur toutes les applications de podcast. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a que Podcast Addict et Apple Podcast qui permettent de le faire. De mémoire, je me trompe peut-être. Mais c'est vrai que à part YouTube, évidemment, on ne peut pas nous laisser de message. Donc du coup, si toi, tu as envie de nous laisser un message, bah tu peux le faire évidemment sur Apple Podcast et Podcast Addict ou YouTube. Mais surtout, tu peux aussi aller sur le forum des compagnons pour commenter les épisodes de podcast, puisque depuis qu'on a changé notre site internet, je sais pas si tu l'as remarqué, on a fait une mise à jour de notre site internet. Avant, il était sur WordPress, il y avait des commentaires. Maintenant, il est en site statique sous Docurosaurus. On a décidé d'enlever les commentaires, la partie statique, on n'en avait pas besoin, puisqu'on a une communauté basée sur un forum. On s'est dit, de toute façon, les gens pouvaient commenter sur le forum. Donc, tu peux aller sur le forum. Et enfin, merci à la commu de Podcast Addict. Continuez à nous inonder de messages. Allez-y, lancez des vrais sujets. Vous allez voir, en plus, avec cet épisode de podcast, il y a peut-être des vrais sujets où vous voudrez laisser des messages sur Podcast Addict. Bon, ceci étant fait, ceci étant dit, on va passer à la première news. Et c'est Damir qui s'y colle.
Oui, je vais vous parler du coup de la fermeture de WeWork qui est du coup assez récente, alors on enregistre ce podcast. Donc avant tout, je vais préciser peut-être ce qu'est WeWork, parce que je pense que même peut-être ici, on connaît pas tous exactement l'activité de cette société. Donc c'est une société qui bosse sur l'intégration et la gestion du GitOps, dans le sens où elle va accompagner les entreprises pour passer au GitOps, en particulier dans un contexte Kubernetes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'avec le temps, elle s'est retrouvée quand même à faire pas mal de choses intéressantes, et c'est notamment elle qui est à l'origine de petits outils quand même assez répandus, comme Fluxd, comme Flagger, et quelques autres produits qui sont aujourd'hui open source et qui sont notamment à la CNCF, mais ça, on y reviendra plus tard. Donc globalement, une entreprise qui est quand même assez importante dans l'écosystème tech cube qu'on connaît aujourd'hui, et en particulier GitOps. Ils ont aussi fait de l'accompagnement au-delà des outils, faisait de l'accompagnement en consulting, en aide en fait aux entreprises. Et cette entreprise, du coup, le 5 février, au travers d'un post sur LinkedIn de la part du CEO Alex Richardson, il a expliqué que c'était la fin de l'aventure pour eux, et que malgré en fait des nouveaux produits qui sont sortis, malgré des revenus qui étaient en hausse, ils avaient des problèmes de trésorerie qui étaient extrêmement volatiles, et dans le contexte actuel, en fait, c'était plus suffisant pour tenir l'entreprise à flot. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'entreprise a décidé de fermer. Il a expliqué aussi qu'ils avaient tenté notamment un rachat pour qu'une autre entreprise puisse corriger ses problèmes de trésorerie, tout en permettant à l'entreprise de continuer son activité. Parce que l'entreprise avait quand même un chiffre d'affaires. On ne parle pas d'une startup qui n'avait pas de revenus ou qui n'a pas arrivé à sortir de produits. Et du coup, cette tentative de rachat a échoué, ce qui a en fait déclenché cette annonce de fin de cessation d'activité pour l'entreprise. Et bah pour la fin d'une entreprise comme ça, on va très vite se poser la question de quel est l'impact, parce qu'aujourd'hui, si on dit Fluxd, si on dit Flagger, si on parle d'autres, il y a encore d'autres outils, si on parle d'outils open source comme ça, on pourrait très vite se dire que ça peut avoir un impact sur énormément de personnes qui sont pas directement clientes de WeWorks. Et pour le coup, là-dessus, on va avoir des nouvelles qui sont assez rassurantes. Premièrement, notamment Fluxd, il fait partie de la CNCF, donc du coup, la gouvernance, elle est assurée de ce côté-là, et il va y avoir un suivi du produit. Deuxièmement, l'autre chose qui est assez intéressante, c'est que dans son poste, il a quand même pris le temps de préciser qu'il cherchait des moyens d'aider encore Fluxd à continuer à évoluer et à se développer. Et pour ça, en fait, il a expliqué qu'il cherchait notamment de l'aide pour du coup que des entreprises puissent participer à ça. Et du coup, désolé, j'ai un petit bruit en fond. Et du coup, moi, j'étais en utilisateur régulier de Fluxidus, parce que c'est un produit que j'aime beaucoup. Bah, je vais continuer à suivre ça de mon côté. Et vous, du coup, bah, vous allez suivre ça? Est-ce que vous avez peur d'être impacté?
Alors, je vais commencer, du coup, je vais commencer. Comme j'ai vu, justement, cette news cet après-midi, j'ai pas eu le temps d'aller gratter plus que ça. Ça m'avait assez surpris, parce que je pensais que, c'était une société qui était plutôt robuste, mais comme quoi toutes les sociétés sont pas robustes. Et puis bon, bah, les problèmes de trésorerie, même si on a un bon chiffre d'affaires qui suit, ça peut tuer une boîte. Enfin, même si finalement on n'a pas de déficit en fin d'année dans notre bilan, si on peut pas payer les salaires ou quoi que ce soit parce que la trésorerie est trop tendue, ça c'est inquiétant. Moi, je me pose quand même une question. Peut-être que tu as la réponse, Damir. C'est ça me fait penser ça pas forcément à WeaveWorks, mais comment est-ce que la CNCF elle assure justement le suivi du développement d'un logiciel libre, puisque j'imagine qu'en grande partie il devait y avoir des personnes qui travaillaient à WeaveWorks qui maintenaient le produit. Comment ça va se passer maintenant? Qui va financer? Est-ce que c'est la CNCF qui a des pools de développeurs et développeuses qui vont reprendre le projet et le développement, ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu le sais?
Ouais, alors je vais un peu préciser parce que pour la petite histoire, j'étais interrompu par l'aspirateur robot qui a voulu se lancer. Donc du coup, là, j'ai décalé ça. Mais au-delà de ça, non, plus sérieusement, c'est une bonne question. Alors il y a un post, de toute façon, vous aurez le lien dans les commentaires du podcast pour ceux que ça intéresse. Il y a un thread sur du coup le GitHub de Fluxidy, parce que Fluxidy est dans une orgue à part, hein, il n'est pas dépendant de l'orbe de WeaveWorks. Donc pour le coup, ils expliquent qu'il y a des développeurs qui sont pas rattachés à une entreprise et qui vont continuer de bosser dessus, notamment des mainteneurs. Donc là-dessus, on sait qu'ils vont pas se retrouver du jour au lendemain non plus sans personne. Après, ils sont aussi conscients que les employés de WeaveWorks représentaient du coup la majorité des contributeurs aux outils-là. Donc aujourd'hui, la vraie question, ça va être de trouver d'autres contributeurs. C'est ce que je disais, il y a quand même du coup le CEO et l'entreprise qui cherche des entreprises pour potentiellement back là-dessus, aider financièrement ou en termes de dev à donner un coup de main. Après, aux côtés de la CNCF, je sais pas trop comment ça s'organise dans ces cas-là. Je pense qu'eux, ils ont aussi leur réseau, ils ont leurs moyens, on va dire, de communication, et ils risquent de passer par leur réseau pour demander s'il y a des entreprises qui pourraient aider là-dessus ou qui pourraient donner de la visibilité ou autre. Mais pour moi, ça va se faire comme ça. Mais c'est une bonne question si imaginons demain ils avaient fermé, ils avaient dit le produit, on sait pas quoi en faire, on vous le laisse. Je sais pas exactement comment serait passé. Là, c'est pas tout à fait le cas.
En plus, c'est quand même, enfin pour Flux en tout cas, c'est quand même un outil qui est largement répandu et avec beaucoup de succès. Donc même, enfin bien sûr, c'est enfin ce que la news, elle est triste et c'est dommage pour la suite. C'est sûr que ça va mettre un peu un coup d'arrêt, mais j'ai quand même bon espoir que c'est un outil qui va créer un peu d'engouement. Et du coup, il y a des places à prendre en termes de mainteneurs, etc. Je suis peut-être un peu naïf, mais j'ai l'impression que il y a pas trop de quoi s'inquiéter non plus pour la suite du soft en lui-même, quoi. Enfin, encore une fois, pour Flux, je me rends pas compte de tous les autres outils, mais pour Flux.
C'est ça, pour les autres outils, je pense que ça va être pour certains un peu plus tendu. Flux, clairement, je pense qu'il y aura pas trop de soucis. Après, pour les autres, savoir. Moi, je suis quand même impressionné négativement, mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup de fermetures d'entreprises ou d'entreprises qui réduisaient leur scope, mais rarement des entreprises qui étaient... On a vu beaucoup d'entreprises qui étaient très dépendantes, notamment du coup des levées de fonds, etc. Là, on parle quand même d'une entreprise qui avait un business, qui marchait. Bon, il y avait des problèmes de trésorerie, mais c'est vrai que ça montre que la période, elle est dure, même hors des entreprises qui font juste des levées de fonds. Et je pense que c'est assez intéressant sur ce que ça montre du contexte actuel sur nos entreprises et notre contexte général de la tech.
Je sais pas si René, tu t'es exprimé là-dessus.
Je me suis pas exprimé, mais j'ai pas forcément plus à dire, donc je vais passer mon tour.
Eh ben, dans ce cas-là, je vous propose qu'on clôture le sujet. Moi, je vais vous parler du sponsor du mois, puisque tous les mois, il y a un sponsor dans ce podcast. Et ce mois-ci, bah, je vais te parler de Frogit, qui est une forge logicielle DevOps made in France. Alors, spoiler alert, c'est ma forge logicielle. Donc, la forge logicielle, pour produire des logiciels, t'as besoin, en fait, d'une... Pour produire des logiciels robustes et de qualité, tu as besoin d'une forge logicielle, parce qu'une forge logicielle, ça te permet de faire plusieurs choses. Déjà, planifier tes développements pour pouvoir t'organiser, héberger et versionner ton code, évidemment, coopérer par exemple la discussion autour des issues, mais surtout d'un chat. Tu peux aussi tester en continu sur une forge et surtout distribuer le logiciel aux utilisateurs, que ce soit un logiciel libre ou pas. Eh bien, justement, si tu cherches une alternative qui soit souveraine à GitHub ou GitLab, ou alors que tu cherches un SaaS qui est moins cher que GitLab parce que t'as pas forcément besoin des fonctionnalités premium, mais que ton équipe a plus de 5 personnes, alors Frogit, justement, est fait pour toi. C'est un SaaS libre qui est basé sur GitLab et Mattermost, puisqu'on n'a pas que GitLab. Tu as accès aux fonctionnalités d'intégration continue et de déploiement continu, donc GitLab CI, sans aucune limite de minutes, contrairement à GitLab. Tu peux héberger tes pages statiques sur les pages. Tu as accès à tous les registres qui sont activés, justement, sur le GitLab de Frogit. Bref. Simplifie-toi le code et fais plaisir à tes techs. Tu peux collaborer autour du code sur la première plateforme intégrée DevOps Made in France. Et avec Frogit, tu peux sécuriser tes données, améliorer tes performances et surtout protéger la planète, puisqu'on est hébergé dans un data center sans utilisation de climatisation. Donc tu trouveras tout un tas d'infos sur frogit.fr. Et si tu es une personne qui veut sponsoriser le podcast, le plus simple, c'est de rentrer en contact avec moi sur LinkedIn, Twitter, le forum, bref, tu trouveras. Alors, René, tu as deux news pour nous. Tu vas, je pense, les enchaîner puisque tu nous as dit qu'elles étaient un peu légères, et tu vas nous parler de mon grand ami Google.
Ouais. Première news, c'est une news qui a été relayée, que j'ai trouvée sur Foronix, mais qui a été reprise par le site developper.com, et qui parle en fait du fait que donc chez Google, ils sont décidés de sponsoriser la fondation Rust à hauteur $1 million. Alors pour Google, c'était pas beaucoup, mais c'est toujours ça de prix. Et l'idée, c'est de faciliter l'interopérabilité entre le C++ et Rust. Alors c'est déjà une des forces de Rust, c'est quelque chose qu'on peut faire, et ça a été vraiment une des forces et une des applications. Je rappelle que Rust a été créé par Mozilla, et c'était pour réécrire certaines parties du moteur Gecko, qui était en C++, et donc il y a une interopérabilité assez, possible. Elle est pas forcément au top, et donc voilà, le but, ça va être vraiment d'améliorer ça. Et ce que je trouve assez, pas bizarre, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, Google était un peu timide sur Rust. Alors peut-être parce qu'ils ont d'autres langages. Ils ont lancé Carbon, qui était un petit peu une alternative. Ils ont Go. Mais on voit que c'est de plus en plus utilisé sur Android. Et là, ils ont contribué un petit peu, on va dire, en retard par rapport aux autres géants, tels qu'AWS, etc. Mais apparemment, Rust se déploie pas mal aussi côté Google. Et ça avance. Donc une news assez intéressante, j'ai trouvé. Et la deuxième news...
Attends, avant de passer à la deuxième news, on va pouvoir interagir sur la première, tu vas un peu vite.
Allez-y.
J'ai la parole, mais je vais la donner à Damir pour la reprendre peut-être plus tard.
Ouais, c'est quand même une bonne nouvelle que Google soutienne ce langage-là. Ça nous montre aussi et ça nous rappelle que malheureusement, même si on n'est jamais femme des GAFAM, ils aident quand même pas mal sur le développement en général, parce que là, même si c'est pas une donation qui va les mettre en péril, ils en font quand même beaucoup et contribuent quand même pas mal. Donc c'est plutôt cool. Moi je suis pas du tout utilisateur de Rust parce que c'est pas adapté en fait à mon besoin, mais pour le coup je pense que c'est intéressant dans plein de contextes et que ça va apporter pas mal de choses, donc à voir comment ça va évoluer. Moi du coup j'attends plus de voir les impacts côté utilisateur, je pense pas que je serai impacté dans mon fonctionnement. Moi je suis plus utilisateur de Go du coup pour mes besoins.
Peut-être que Google fera une donation un jour à Go. Je suis assez d'accord avec toi, en effet, malgré le fait qu'on soit jamais fan de ces multinationales. Alors, pour la petite histoire, il y a une quinzaine d'années, j'étais plutôt fan de Google et mon point de vue a changé sur la société quand j'ai compris ce qu'ils faisaient, etc. Ça reste une belle société qui fait pas mal de choses. Je suis juste pas en accord avec le pourquoi ils font certaines choses, mais bon. Mais en effet, il est évident que ces grosses sociétés ont un intérêt de toute façon à subventionner ce genre d'outils, et je pense qu'on devrait même aller plus loin. Après, il y a des grandes questions et des grands enjeux sur le financement du logiciel libre, et est-ce qu'on doit être soumis justement à des subventions des grosses boîtes et attendre qu'elles puissent le faire, ou est-ce qu'il faudrait trouver autre chose, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose à discuter de manière plus générale, plus globale et de manière régulière, je pense. Mais c'est une bonne nouvelle, selon moi. Erwan.
Ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter, mais en effet, ça permet de rappeler qu'on peut soutenir l'open source en faisant autre chose que des contributions directes de doc ou de code, mais aussi en contribuant à financer des développeurs qui travaillent dessus.
Après, pour Google, c'est vrai que c'est quand même, je pense, assez régulier le fait qu'ils utilisent quelque chose en interne et souvent ils soutiennent. Ça, on peut pas trop leur reprocher ça. Il me semble que voilà, ils font quand même un peu, ils font avancer le schmilblick.
Exactement. Et du coup, je vais en profiter pour faire mon petit appel à l'action maintenant et pas juste après ta deuxième news, parce que c'est vraiment adapté. Puisqu'on parle de financement du libre, ce podcast, il est en licence libre. Et donc, si toi aussi tu aimes ce podcast et tu veux t'assurer qu'il continue longtemps, si tu apprécies ce contenu, si tu penses qu'il t'aide dans ta veille ou s'il t'apprend des choses, puisque je rappelle qu'on a aussi les épisodes Radio DevOps, même s'il y a une petite pause en ce moment, qui apprennent pas mal de choses, eh ben tu peux nous soutenir via un don, parce que nous aussi, en faisant du contenu libre, on a parfois besoin de dons pour notamment payer les outils, l'hébergement, etc. Tu trouveras justement tout ce qu'il faut sur le site des Compagnons. Tu peux aller sur soutenir.compagnon-devops.fr, sinon tu trouveras un lien vers la plateforme LibéraPay. Et là, tu pourras donner ce que tu veux et ce que tu peux, surtout. Ça nous aidera, quoi qu'il arrive. Et du coup, René, tu vas pouvoir nous parler de Docker.
Oui, et une deuxième news, petite news, qui a peut-être été aussi évoquée dans d'autres podcasts, je suis pas sûr. En tout cas, c'est que Docker a racheté Atomic Jar. Donc Atomic Jar, c'était la société qui développait l'outil Test Containers. Donc Test Containers, c'est un outil pour les développeurs et leur faciliter les tests en créant via des containers, par exemple une base de données Postgres ou différentes bases de données, des message bus, etc., de manière très simple et de manière à pouvoir tester dans un environnement qui est plus... on va dire plus réaliste, entre guillemets, que en moquant, entre guillemets... Ces différents services externes. Donc ça simplifie on va dire la création de la base, la destruction, etc., en fonction des tests. Donc c'était une belle solution, et donc voilà, Docker a fait l'acquisition, et à première vue il y a on mettra le lien, mais donc il y a une FAQ par rapport à ce rachat, et à première vue, il n'y a pour le moment aucune intention de changer la licence ou quoi que ce soit. Donc c'est voilà, ça a l'air plutôt pas mal. À voir ce qui va en advenir, mais je pense que c'est pas un mauvais plan pour Docker pour le coup. Je vous laisse la main.
Merci René, je connaissais même pas Test Container. Du coup, merci, parce que ça me permet de découvrir cet outil-là. Je vais aller gratter un peu plus, parce que moi, dès qu'on peut améliorer la vie de nos chers codeurs et codeuses, ça me plaît. De manière là pragmatique, j'ai été surpris en voyant le titre de la news, parce que je me suis dit mince, mais en fait Docker, ils ont encore plein de sous pour acheter des gens. Et donc ils se rapprochent de plus en plus. Enfin, je sais pas s'ils se rapprochent de plus en plus, mais en tout cas. J'ai l'impression qu'ils veulent, grâce à ce rachat et peut-être avec d'autres, être à nouveau présents, ou plutôt renforcer leur présence sur les stations de travail de nos chers codeurs et codeuses, parce que je vais utiliser ce terme plus globalement, pas forcément que les développeurs et les développeuses, mais des gens qui font du code en fait, et de pouvoir nous faciliter la vie. Plus ils seront proches des personnes qui font du code et qui développent du logiciel, et plus finalement ils seront présents dans l'écosystème global. Enfin, moi c'est comme ça que j'imagine qu'ils se disent qu'ils vont pouvoir se répandre petit à petit. Je vois Erwan qui hoche de la tête. Erwan, qu'est-ce que t'en penses?
C'est pour moi c'est un rapprochement qui d'un point de vue synergie me paraît assez évident. Comme tu dis après sur le point de vue peut-être plus business ou quoi que ce soit, j'ai un peu de mal à me projeter, mais en tout cas, en soi, c'est pardon.
Alors toi, si tu nous écoutes et que tu n'as pas la vidéo YouTube, sache que en fait le chat d'Erwan vient de sauter sur son clavier et est passé devant. C'est le petit papate qu'on a entendu, et Erwan a dû aller le jeter, je pense, en dehors de la pièce, c'est ça?
C'est ça. Je suis désolé. Il y a ma femme qui est rentrée. Du coup, le chat est devenu ouf. Bon, tout ça pour dire que c'est une synergie attendue. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, mais j'ai du mal à me projeter sur ce que ça va vraiment apporter, même si, encore une fois, c'est évident que ce rapprochement soit fait, quoi.
Ouais, c'est plutôt, je pense que tout a été dit, c'est plutôt un bon rachat. Rassurez-vous, aucun chat n'a été maltraité pendant ce podcast d'ailleurs. Mais au-delà de ça, moi ce qui m'inquiète, c'est ça, c'est est-ce que ça commence à rapporter du pognon. Parce que le problème de Docker, on va pas se mentir, ça va être de trouver aussi du revenu. Et pour moi, la partie desktop, c'est une partie qui est intéressante parce que les devs ont besoin d'outillage. Après, moi, de ce que je vois en entreprise, de ce que je ressens, c'est vraiment pas le premier poste de dépense vers lequel les entreprises vont aller quand il y a besoin d'améliorer quelque chose. Elles vont aller sur dépenser sur des plateformes ou des choses comme ça, ou sur d'autres choses. Mais j'ai du mal à voir comment ils vont arriver à rentabiliser tout ça autour de quelque chose qui soit cohérent et qui puisse, on va dire, être intéressant pour les entreprises. Moi, aujourd'hui, je prends un exemple très simple. Vous êtes une entreprise, vous avez des devs. En général, si vous voulez améliorer la vie de vos devs, la première chose que vous allez peut-être moins la vie de vos devs, l'outillage, on va dire, ça va être potentiellement de jouer déjà sur l'abonnement que vous avez chez GitHub ou chez GitLab ou chez Frogit. Vous allez augmenter du coup l'abonnement là-dessus pour avoir tous les outils. Et une fois que vous avez fait ça, généralement, vous avez déjà répondu à pas mal de choses. Et la plupart des boîtes, pas toutes, vont arrêter l'investissement là, parce que quand on rajoute du SaaS, c'est quand même quelque chose qui est assez vite exponentiel. Ce qui est un gros problème, à mon avis, économique général aujourd'hui, j'en ai déjà parlé, que tout soit basé sur la métrique du nombre d'utilisateurs pour les entreprises et qu'il y a tous les outils qui scalent comme ça, fait qu'on retrouve des questions de choix. Et je pense pas que Docker soit dans les premiers choix.
Je suis assez d'accord avec toi. Alors, je me posais justement la question s'il y avait un pricing ou quoi que ce soit adapté justement à ça. Et j'ai vu en fait en allant sur le site qu'ils avaient une solution Test Container Cloud. Donc, ça veut dire qu'en gros, tu peux lancer tes conteneurs dans le cloud ou ton environnement, j'imagine, complet. Et du coup, c'est en effet $35 par utilisateur et par mois. Il y a aussi 0,2 dollars par worker et par minute dans la CI. Donc, si tu veux faire tourner tes test containers pour ton intégration continue dans test container cloud, ça devient compliqué là. Tu peux. Donc, il y a un business model, en effet, qui est adapté à ça, tel que tu décrivais Damir. Je trouve que c'est intéressant d'un point de vue allègement des stations de travail, parce que moi c'est mon grand dada, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je pense que pour l'avenir et pour la survie de notre planète, il va falloir arrêter d'acheter des machines de plus en plus grosses. Et je pense, alors peut-être naïvement, mais que l'extension dans le cloud de nos environnements de développement qui nécessitent parfois des grosses machines, ça peut être une voie. Je prends un exemple tout bête. Aujourd'hui, avec mes collègues, on travaille sur le code d'infrastructure d'une immense forge, plus de 10 000 personnes. C'est pas Frogit, hein, c'est pour un client, on fait ça. Donc, on travaille sur ça. Et en fait, on doit virtualiser l'environnement pour développer des playbooks en cible, et la virtualisation de cet environnement prend au minimum 20 gigas de RAM avec plusieurs CPU. Et ben en fait, on a dû dans l'équipe changer les laptops, parce que les laptops qu'on avait ne suffisaient pas à virtualiser l'environnement de développement. Je prends cet exemple qui est tout bête, mais en prenant cette prestation-là, on a dû y aller. Et du coup, je me dis que peut-être des solutions comme ça, ça nous aurait évité de faire ça. J'en suis pas sûr, hein, mais peut-être qu'il y a ça. René, toi, tu t'es pas exprimé finalement sur ta news. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Moi, je trouve que c'est ce que je disais, c'est plutôt un bon rachat. On sent effectivement ce que vous disiez, que Docker, il s'orienterait effectivement peut-être plus sur l'environnement desktop développeur. Voilà, je pense qu'il y a un créneau sur le sujet. Moi, j'espère que qu'ils vont maintenir cette solution, qu'ils vont la développer encore, parce que je trouve que c'est une bonne solution. Et effectivement, après, il y a la problématique de trouver la rémunération qui va avec. Et bon, j'espère qu'ils vont avoir des plans, ils vont s'en sortir.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Erwan, tu vas nous parler d'un outil dont on a déjà parlé, qui était annoncé comme le successeur d'en cible.
Exactement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors du podcast du mois d'août, on avait parlé d'un outil qui s'appelle Jet Porsche et qui était fait par Michael Dehan, pardon, qui est donc le créateur d'Ansible et qui avait annoncé un peu en grande pompe sur son blog perso, vouloir travailler sur un plus gros projet d'automatisation, parce qu'il estimait que Ansible, il y avait quelques petits couacs qui commençaient à être un petit peu pénibles, mais il voulait absolument, tout en gardant bien sûr le fameux simple à apprendre d'Ansible. Et donc sa principale motivation, comme je disais, c'était qu'il avait ciblé quelques petits points d'accrochage, comme il trouvait que Ansible n'était pas forcément hyper adapté aux archis hybrides et aux archis mouvantes. Il voulait quelque chose qui scale mieux. Bah, ça, je pense que toutes les personnes qui ont utilisé Ansible sur des infrastructures un peu fat, ils voient le souci. Et pour faciliter l'adoption et tout, il voulait faire en sorte que il y a un maximum de compatibilité avec ce qu'il y a dans Ansible aujourd'hui, donc les rôles, les modules, etc., pour pouvoir, comme il y a une sacrée communauté qui a travaillé dessus, bah, pour pouvoir avoir un truc opérationnel au plus vite. Et le game changer de tout ça, c'était que fini le Python, place au Rust, avec l'argument ultime qui était que Rust c'est plus sympa que le Go, et donc l'idée étant de fournir un binaire sans que vous ayez à maintenir des virtual lamb avec des chaînes de requirement, etc. Donc ça, on est au mois d'août. L'engouement suite à cette annonce était plutôt chaud. La communauté était assez curieuse et intéressée. Et donc assez vite, on a vu que le projet s'est mis en place, le site officiel commençait à se construire, il y avait un Discord en place, il y a une première release qui a été publiée en septembre, pardon. Il y a une dizaine de contributeurs qui ont participé à cette dernière, etc. Mais voilà. Fin décembre, un peu en mode ninja, toujours Michael Dehan, sur son blog personnel, a posté un, un article qui s'intitule tout simplement l'arrêt de Jet, donc Jet pour Jet Porsche. Et donc du coup ça a un peu surpris, parce que je crois que le post c'est genre le 22 ou le 23 décembre, donc vraiment fin d'année avant les fêtes, tout, enfin un petit peu en mode random. Et qu'est-ce qu'il explique dans cet article? Ben, il explique, alors déjà, ça fait à peine 4 mois de vie, entre guillemets, hein. C'est quand même à garder en tête. Qu'est-ce qu'il explique dans cet article? Donc, il trouve que le code a plutôt bien avancé, que ça marche plutôt bien, il en est plutôt satisfait, il remercie les différents contributeurs, il remercie les gens qui ont participé aux différents échanges, aux différentes idées, à structurer le truc. Il a trouvé tout ça intéressant, mais bon, en gros, actuellement, il a finalement pas de, il se sent pas vraiment concerné par le projet, tout par un manque d'usage direct de tout ce qu'on a évoqué plus tôt, et donc du coup, bah le projet l'anime pas vraiment. Donc c'est un peu voilà, et il est un peu saoulé, il veut passer à autre chose. Et donc, de façon assez laconique, il annonce qu'il ne va plus contribuer, mais que c'est libre aux autres de poursuivre. Il explique que le Discord va être débranché, donc aujourd'hui c'est déjà le cas, que le site officiel aussi, c'est aussi déjà le cas, le nom de domaine, je crois, il est parqué, enfin, en tout cas, il n'y a plus le contenu qu'il y a dessus. Il y a juste le GitHub qui est up, et en fait qui était un mirror de Source Hunt, qui était là où était hébergé le code. Et lui, il explique que aucun nouveau commit ne sera qu'il n'y aura pas trop d'activité dessus, mais que le truc restera en tant que tel sur GitHub. Donc forcément, ce qui surprend, c'est le côté très soudain du truc. En plus, alors j'ai pas regardé, mais si ça avait été activé, mais en tout cas, ce week-end, le post avait été effacé du blog post. Donc d'ailleurs, merci René d'avoir fourni le lien Web Archive pour pouvoir récupérer l'article. Et d'ailleurs, c'est le lien qu'on vous partagera, comme ça on est sûr qu'il sera dispo. Mais ouais, donc c'est le côté soudain, le côté un peu ninja, le côté aussi peut-être pas trop assumé, du coup, avec ce post effacé. Et ce qui est assez aussi cocasse, si vous l'avez pas fait, je vous invite à le faire, c'est de regarder les quelques réactions qu'il y a sur Twitter. On voit que, genre, début janvier, il y a des gens, tout content qui disent ah c'est super ce projet, je viens de tester, c'est rigolo, j'ai envie de m'investir un peu plus. Et puis il y a des réponses en dessous de ce tweet là qui dit ah mais mec t'as pas vu que c'était fini, attention. Donc voilà, ça rappelle ce que je vais vous demander ce que vous en pensez, bien sûr, mais moi c'est quand je lis tout ça, alors même si là la durée de vie est particulièrement courte, et donc j'imagine qu'il n'y a aucune prod qui tourne avec ça, mais ça rappelle un peu un des sujets qu'on avait évoqué il y a très longtemps sur comment choisir les projets sur lesquels on va investir du temps. Bah voilà, communauté, activité, etc. C'est quand même des choses importantes parce que voilà, les projets peuvent s'arrêter. Ils peuvent ne plus être maintenus, et donc plus maintenus, c'est plus profiter des patchs de sécurité, d'évolution, etc. Donc faites attention. Damir, est-ce que tout ceci t'évoque quelque chose? Et est-ce que tu étais chaud pour utiliser Jet Porsche?
Très bonne question. Moi, une alternative à Ansible, c'est vrai que ça m'intéresserait, dans le sens où Ansible... J'aime bien, mais il y a pas mal de petits points qui m'emmerdent dessus. Je vais pas faire une énumération de tout ça, mais globalement, j'aimerais bien une autre alternative. Moi, j'aimerais bien une alternative plus orientée aux réconciliations même, comme on peut l'avoir avec du GitHub plus classique et pool, si possible, nativement. Mais en tout cas, moi, ça me surprend pas. Après, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on fait tous, de vouloir lancer un projet, commencer pendant quelques mois, quelques week-ends, et puis le laisser. Oui, c'est juste que nous, quand on le fait, tu vas avoir peut-être deux personnes qui vont le voir sur son feed GitHub, lui, il va en avoir des centaines de milliers. C'est peut-être ça la grosse diff au fond, et qu'au final, on est tous derrière des humains et des développeurs fans de vouloir se lancer dans des projets fous, puis d'abandonner quelques temps après pour X raisons.
Je vais prendre la suite, je suis assez d'accord avec toi. Donc je te confirme, Erwan, l'article de blog a disparu du blog. Le blog est toujours là, mais l'article a disparu. Moi, en effet, la soudaineté de la décision, et surtout concomitante au fait que tout a été supprimé très vite, y compris l'article de blog, moi, je pense que ça va plus loin que juste « il a plus envie » et tout. Alors, je sais pas ce qu'il y a derrière, hein, mais peut-être qu'il a été saoulé par certains trucs. Pour réagir comme ça, ça sent vraiment le... Je suis saoulé du truc et puis je veux tout, je veux passer à autre chose. Moi, je sens vraiment un truc comme ça. Je suis assez étonné de se lancer dans un tel projet, parce que c'est quand même un projet, c'était censé être un projet d'ampleur. Et puis 4 mois après, se dire que t'as plus envie et que surtout tu l'utilises pas forcément. J'avoue, je suis assez étonné de cette décision. Moi, quand je me lance dans des projets open source et libres, c'est toujours en lien avec des choses que je fais. J'essaye pas de faire des choses dont je vais pas utiliser les fruits. Je sais pas trop. J'avoue, je suis assez perplexe. Moi, j'avais bien envie d'utiliser JetPorch, mais du coup, bah, je l'utiliserai pas. Hein. Moi aussi, me convient bien parce que de toute façon, j'ai pas les infrastructures. C'est que des infrastructures limitées qu'on gère, donc ça nous convient. On a moins de 10-20 machines, donc ça va. On s'en sort avec les problèmes d'ensible, et puis tant pis, hein, tant pis. René, tu veux intervenir?
Ouais, parce que en fait, alors c'est de mémoire parce que je l'ai lu l'article il y a longtemps, mais il me semblait que c'est plus que, enfin, c'est pas forcément qu'il était saoulé. En fait, j'ai l'impression que de ce que je me rappelle, moi j'ai plus compris ça comme il n'y a pas eu la traction entre guillemets qu'il espérait. C'est-à-dire, alors c'est vrai que ça a été assez court, mais j'ai l'impression qu'il était, ce qui a fait vraiment baisser sa motivation, c'est que ben il n'y a pas eu une énorme communauté qui s'est créé, j'ai l'impression, et du coup ben voilà, il pensait, je pense, que ça serait plus, et voilà, c'est, je pense, qu'il a fait abandonner.
Ouais, alors juste je vais réagir. Ouais, mais en fait tu lances un concurrent Ansible qui est l'un des outils de configuration de management les plus utilisés au monde, enfin je pense, hein. Et en 4 mois tu te dis peut-être que je vais pas continuer parce qu'il est pas assez utilisé. Faut laisser le temps au temps. Et puis, le produit était pas encore très mature. Je sais pas, hein, ça me paraît bizarre. C'est pour ça que, alors, moi, je dis pas que c'est ce qu'il était saoulé. Je dis juste, ça me fait penser à une réaction de quelqu'un qui était saoulé. La soudaineté de la décision et de comment ça s'est passé. Mais, ouais, je trouve ça étrange, si c'est ça. Je trouve ça étrange parce que tu t'attaques à une montagne quand même, mine de rien. Et peut-être qu'il faut chercher des gens pour t'aider, pour mener à bien ce projet avant même de le jeter. Je sais pas. Alors je sais pas. Ouais, si
j'ai envie de rebondir sur un truc. Désolé, je dis juste un élément. Surtout que bah, quand tu lances un projet comme ça, bah, y a un truc qui est très dépendant de l'attractivité générale. C'est bah, du coup le langage, quoi. Et Rust, même si on l'aime bien, il a plein de qualités. Aujourd'hui, dans le monde, notamment, tout ce qui est SRE, sysadmin, c'est clairement pas le langage le plus connu. Je pense que si tu lances un truc en dehors de Go, maintenant encore, et Python, bah, tu perds déjà une grande partie de l'audimat. Et je pense que Ansible est aussi un succès, notamment pour ça, parce que le Python était très à la mode, les admin sys étaient poussés à prendre Python, et du coup, bah, forcément, oui, il a attiré plus de gens pour ça.
Moi, je pense en fait qu'il avait aussi, je pense qu'il avait beaucoup joué sur son nom, en fait. Je pense qu'il espérait que c'est quelqu'un de connu, quelqu'un de brillant, et je pense qu'il espérait que voilà, ça crée plus de buzz et que les gens adhèrent plus. Et quand il a vu que c'était pas tout à fait ce qui se passait, je pense qu'il a lâché, l'affaire. Après, je peux me tromper. Et puis aussi, je pense que la proposition de valeur, elle était un peu pour que les gens, enfin. Ce qu'il disait, c'est qu'il voulait remplacer le moteur pour des raisons de performance, ce qui était plutôt une bonne idée, mais ça fait peut-être un peu peu pour que les gens basculent d'outils qui sont, enfin Ansible qui est bien implémenté, qui est supporté, etc., basculent vers quelque chose de nouveau. Je pense qu'il manquait en termes de valeur, il manquait peut-être enfin, ou de, je sais pas comment dire, d'innovation, manquer des choses qui font que les gens n'ont pas forcément accroché. Et je pense, voilà, je pense qu'il a lâché l'affaire, quoi. Et dernière chose, juste pour dire quand même que le projet reste, ça reste un projet libre, c'est disponible sur GitHub et pour qui veut reprendre, c'est possible. Ça, c'est une des forces quand même du projet. Il est en GPL V3, donc les gens qui veulent contribuer, ça reste possible de reprendre ça. Bon, il y a du boulot, je pense, mais voilà.
Tout à fait, j'ai mis le lien du GitHub d'ailleurs dans les notes de l'épisode et je vais rebondir sur ce que dit Damir et sur ce que tu dis René sur la proposition de valeur. En effet, quelque chose qui ressemble plus à... En fait, Jetpatch ressemblait vraiment trop à Ansible sur sa proposition de valeur et quelque chose qui serait entre Ansible et Argo CD. Moi, j'utilise Argo CD, pas Flux, mais désolé Damir, mais quelque chose comme ça pour le monde du cloud, ça pourrait être vachement bien, c'est-à-dire un petit agent qui tourne sur les serveurs, ou alors un truc centralisé, mais on a AWX hein, qui fait ça, mais qui est assez efficace et qui va lire ses confs dans un dépôt Git, ça pourrait le faire. Je sais pas si ça existe d'ailleurs, mais ça pourrait être super sympa, un truc comme ça, un truc sans serveur pour le coup. Peut-être que ce serait intéressant.
Bah moi, juste un agent qui clone un repo et qui à partir de ça me fait les modifs, tu vois, ça serait top. Mais j'ai rien vu de maintenu. Nous, on utilise un produit qu'on a possiblement un peu remaintenu et refait en interne dans mon entreprise, donc chez Waze, parce que justement, on avait ce besoin de faire de la remise en conformité. Mais aujourd'hui, il y a à ma connaissance pas d'outils. Rudder fait de la conformité, mais du coup, il est pas du tout avancé sur la partie gestion avec de l'infrascode. Et on en avait parlé dans l'épisode précédent. On pourra vous mettre le lien dans la description.
Tout à fait. Il y a le petit qui va s'afficher pour les personnes qui sont sur YouTube et pour les personnes qui nous écoutent en podcast ou qui lisent l'article de blog, il y aura le lien. Erwan, autre chose à dire là-dessus?
Bah, continuons à utiliser Ansible.
Eh bien, oui, très bien. Alors, toi qui écoutes ce podcast, sache qu'il est en licence libre. Justement, j'en parlais tout à l'heure, ça veut dire que tu peux le reprendre, tu peux le diffuser, tu peux en utiliser des bouts dans tes propres contenus si tu veux. La seule chose que tu as à faire, c'est de nous citer, dire que ça vient des compagnons du DevOps et mettre un lien vers le contenu original. Tu peux en plus nous dire « Hey !» j'ai utilisé votre contenu, c'est super sympa, mais surtout, en fait, ce qui nous aiderait le plus, parce qu'en plus de créer du contenu libre, c'est vachement bien, c'est que tu le diffuses, que t'en parles à tes collègues, que t'en parles à tes si t'es étudiant, que t'en parles aux étudiants et étudiantes, ou même à tes profs, je ne sais pas, histoire de faire diffuser le podcast, parce que faire connaître un podcast, c'est très dur. Heureusement qu'il y a YouTube pour la découvrabilité, mais le podcast en lui-même, c'est assez dur de le faire découvrir. Moi, je vais parler de la news suivante, c'est un gros sujet. On va parler d'un sujet chaud. C'est la décision récente de la CNIL qui concerne l'hébergement par Microsoft du projet européen d'entrepôt de données de santé appelé EMC2. C'est la version européenne du Health Data Hub. Alors, c'est un choix qui soulève de nombreuses questions sur la souveraineté numérique de la France. Pour commencer, la CNIL, elle a validé Microsoft comme hébergeur des données sensibles pour 3 ans. Mais elle a exprimé des regrets. D'abord, la décision semble avoir été prise sur des exigences techniques et pas sur une expression de besoin. Ça, c'est la lecture que je fais des articles. En gros, pour moi, on cherchait à reproduire les fonctionnalités d'Azure. C'est ce que j'ai lu en filigrane. La CNIL rappelle aussi que Microsoft, en tant que société américaine, est bien soumise aux lois extraterritoriales des États-Unis, donc dont le Cloud Act et la loi FISA. Alors, même si les centres de données sont situés en Europe ou en France. En conséquence, les données en fait de santé des Européens et donc des Français pourraient être accessibles aux services de renseignement américains sans que les principaux intéressés, nous en l'occurrence, n'en soient jamais informés. Alors ça m'amène à m'interroger sur la réelle liberté de choix dans cette affaire. Le cœur du problème réside peut-être dans la manière dont le choix de l'hébergeur a été effectué. Il y a notamment des critiques dans les articles qui pointent du doigt un manque de transparence et une étude qui a été pilotée par l'administration française qui semble avoir favorisé dès le départ le géant américain. Plus précisément, c'est la délégation numérique de la santé, la DNS, la direction interministérielle du numérique, la DINUM, l'agence numérique de la santé, l'ANS, le tout en association avec le Health Data Hub, le HDH, qui ont rendu un rapport à la CNIL qui dit qu'aucun prestataire potentiel ne propose d'offre d'hébergement répondant aux exigences techniques et fonctionnelles du HDH pour la mise en œuvre du projet EMC2 dans un délai compatible avec les impératifs de ce dernier. Alors je précise un truc que j'ai pas mis dans mon édito, c'est qu'en fait le HDH avait gagné un appel d'offres pour mener à bien le projet EMC2. Alors, plus inquiétant encore, la CNIL ne semble pas valider ce choix sur le fondement juridique, ce qui pourrait ouvrir la porte à un véritable cheval de Troie législatif en matière de protection des données. Quentin Adam, justement, le CEO de Clever Cloud, a exprimé clairement sa position sur LinkedIn. Il exprime son regret face à cette décision et la méthode employée. Il souligne un manque d'engagement réel envers la souveraineté numérique et technologique française, et il critique l'absence de consultation plus large, puisqu'il y a que seuls 3 cloud providers français qui ont été sondés. Donc, l'absence de consultation plus large des acteurs locaux qui auraient pu offrir des alternatives viables. Ce qui est en jeu ici, en fait, c'est la capacité de la France et plus largement de l'Europe à contrôler et à protéger ses données stratégiques numériques. L'importance de la souveraineté numérique ne se limite pas que à la protection des données de santé, mais elle touche à l'autonomie et à la sécurité nationale dans le monde numérique d'aujourd'hui. Pour conclure, cette décision de la CNIL, en fait, loin d'être un simple choix administratif, soulève en fait des questions qui sont fondamentales sur l'avenir de notre souveraineté numérique. C'est un sujet qui mérite une discussion plus large, complètement ouverte et approfondie, qu'on ne pourrait pas avoir dans un simple podcast comme ça. Donc, c'est pour ça que, pour toi, je te demande ton avis sur cette affaire. Que penses-tu, en fait, que la France aurait dû faire? Est-ce qu'elle aurait dû privilégier les solutions européennes ou même françaises? Est-ce qu'elle aurait dû faire ça? Dis-le-nous en commentaire ou mieux sur le forum des Compagnons du DevOps, qu'on puisse en discuter de manière plus poussée, plus longue et dans le temps. Mais avant de répondre à ça, je t'encourage à lire les articles que je mets sur l'article de blog ou en description, si la description n'est pas trop longue. Donc, en attendant, puisque je n'ai pas notre auditeur ou notre éditrice, c'est vers vous trois que je me tourne. Et justement, je vais vous poser la question, c'est quoi votre avis là-dessus?
Je peux commencer, hein. Tout le monde fait les timides. Mais non, ce que je disais un petit peu avant qu'on commence le podcast entre nous, j'ai l'impression que tous les X temps, il y a un peu le même sujet qui revient je vais employer peut-être un mot un peu fort, mais en gros, un mépris de ce qu'on sait faire en France, par exemple, peut-être, parce que un des arguments, c'est en gros, en France, on ne serait pas capable d'avoir le paramètre technique pour valider toutes les conformités. Et j'ai l'impression que ouais, c'est pas la première fois. Hein. On se souvient aussi des histoires de tentatives de faire de cloud souverain où il y avait des mecs d'AWS et de Google qui étaient dans les boucles de discussion. C'est assez déprimant. J'ai lu aussi le post que tu as cité de Quentin Adam, qui est assez clair sur justement le manque de transparence sur le sujet, le côté très top-down aussi, puisqu'effectivement la consultation a été assez limitée visiblement. Vraiment, ça me déprime un petit peu parce que j'ai l'impression que c'est sans fin, c'est problématique et que on parle de et c'est surtout que j'arrive pas à capter à quel point les mecs qui prennent ces décisions, ils se disent on veut faire des choses, mettre en avant la souveraineté, etc. Et puis au final, le choix que tu fais, c'est pile à l'opposé de ça. enfin en tout cas les décisions que tu prends vont vraiment à l'encontre de ça, donc j'ai un peu de mal. René, est-ce que tu as quelque chose de plus profond que moi à ajouter là-dessus?
C'est éminemment politique, c'est compliqué. Que dire? Non, bah après, ce que je trouve, ce que je comprends pas en fait, c'est qui ment en fait dans l'histoire, enfin ou qui, voilà. Pour moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi, enfin, dans ce genre d'affaires, on devrait avoir un appel d'offres relativement clair qui définit les objectifs à atteindre et non pas les solutions à mettre techniquement, ce qui semble être un des reproches qui est fait par Quentin vis-à-vis du cahier des charges. Et puis après, libre aux différents prestataires de répondre, ça devrait être relativement ouvert et relativement carré. Et là, c'est vrai que, alors, certains disent que c'est pas le cas, c'est pas suffisamment ouvert, etc. Alors, est-ce que c'est le cas, est-ce que c'est pas le cas? On est un peu dans le flou en étant un peu loin de ce truc-là. Après, effectivement, techniquement, peut-être qu'il y a quand même un certain nombre de difficultés, mais ouais, c'est frustrant parce qu'on ne sait pas si effectivement c'est la compétition, elle est, j'ai le mot en anglais, je suis désolé, faire quoi. Voilà, c'est difficile à, d'un point de vue un petit peu extérieur, de comprendre qui dit la vérité, et parce que effectivement peut-être qu'il y a des règles des réelles difficultés, mais si effectivement la consultation elle est pas ouverte, à chaque fois on perd quoi, entre guillemets. Voilà.
Moi je vais finir parce que j'ai un avis qui est un peu plus long, donc je vais me lancer là-dessus. C'est vrai que sur le fond c'est triste de devoir s'en remettre à un acteur américain. Je pense que ça on sera tous d'accord dessus. Que la raison soit justifiée, bonne ou pas, ça c'est peut-être une autre question qui est un peu plus vraie. Sur la première partie globalement, qui est le manque de transparence sur l'appel d'offres et notamment les accusations sur le fait que l'appel d'offres serait axé sur Azure, moi ce qui m'emmerde un peu avec cette histoire, clairement, c'est bon, le fait que ce soit pas transparent, c'est une chose, je peux concevoir que dans l'administration ça se fait pas pour raison X ou Y, c'est dommage, mais c'est assez classique de l'administration. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'entends beaucoup de personnes dire que cet appel d'offres était rédigé pour Azure. Fun fact, Azure ne remplissait pas les cases non plus totalement. Ce qui me fait un peu rire. S'ils ont rédigé un appel d'offres pour Azure, pourquoi ils ne rempliraient pas toutes les cases? C'est un peu bizarre, mais enfin bref. Et au-delà de ça, en fait, j'ai ce son de cloche de « oui, l'appel d'offres a été fait pour Azure » et de l'autre son de cloche, quand j'interroge des gens qui ont été sur le dossier ou qui ont été en interne sur ce projet, ils me disent que non, c'est plus compliqué que ça et que l'appel d'offres à la base n'était pas du tout orienté sur Azure, mais qu'il y a eu plusieurs appels d'offres incrémentaux et que en fait, il y a eu des mélanges entre différentes choses, etc. Et qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on dit des choses et j'ai pas la vérité, donc là-dessus, j'ai pas envie d'apporter un jugement parce que je vais pas croire à des paroles de personnes sur, on va dire, des dires comme ça un peu à l'emporte-pièce. Ça, pour moi, pas d'intérêt sur le fond. Et ensuite, c'est sur la partie, on va dire, le choix. Je pense que le mot qui est important, c'est les clouds européens n'étaient pas capables de le fournir sur le délai précis. Là où c'est intéressant, ce genre de choses, pour moi, c'est que le problème n'est pas est-ce qu'on est capable de le faire ou pas, c'est est-ce qu'on a cette solution-là qui existe déjà. Est-ce qu'on est capable de le faire? Oui, on est capable de tout faire avec une question financière et une question de temps. Là, aujourd'hui, on l'avait pas, donc ça me paraît pas déconnant d'assumer que c'est mort. Je vais prendre un exemple qu'on a déjà eu dans notre passé, en France. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, nos usines étaient pour beaucoup détruites. On devait remonter une armée forte. L'arme blindée était encore plus importante que jamais. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On ne pouvait pas, en fait, inventer, alors qu'on avait des bureaux d'études qui allaient continuer à bosser en Angleterre, mais on pouvait pas repartir de zéro et faire un truc, entre guillemets, en deux semaines. On avait cette problématique de temps. Et la souveraineté, c'est aussi parfois de se dire, on veut être souverain à ce moment et être autonome à ce niveau-là, on ne peut pas actuellement. Comment on fait avec la méthode qui a le moins de risques vis-à-vis de notre matrice de risque pour assurer cette souveraineté le temps que nous, on développe notre solution? C'est ce qu'on a fait. On a acheté des chars aux Américains, des M47 Patton à l'époque, le temps que nous, on développe nos propres blindés. c'était pas souverain totalement, mais nous, ça nous a permis d'avancer sur notre chose, notre armée, tout en ne perdant pas, en fait, du coup, on va dire, un avantage de ce niveau-là. Et pour moi, la situation, elle est un peu la même. On n'a pas actuellement des acteurs qui sont capables de le faire. Il y avait notamment la question d'avoir beaucoup de choses qui étaient en liste privilège et beaucoup de couches de chiffrement en plus, notamment avec des clés externes. Donc, pour moi, tout ça, c'est une question de timing. Qu'aujourd'hui, on ait choisi Microsoft, c'est pas un vrai problème. Pour moi, le problème, c'est comment on va suivre ça, comment on va remettre en question, comment les acteurs vont y répondre. Et c'est là que ça va être intéressant. Et il faut voir aussi que la matrice de risque aujourd'hui, on est tous à faire un peu nos théories, etc. Les gens qui ont bossé dessus, c'est pas des débiles. On n'a pas demandé aux plus débiles de la classe de bosser sur le data health, etc. Donc, je pense que les gens-là en sont conscients que c'est pas une solution idéale d'un point de vue, on va dire, politique et géopolitique. Ils sont conscients aussi que c'est sûrement une phase transitoire et ils ont prévu justement un minimum de mécanismes pour pas non plus envoyer tout le monde en copie d'un mail Microsoft. Parce que quand j'écoute les gens, j'ai quand même l'impression que Microsoft, ils ont une IHM aussi, ils ont un compte admin sur l'application et ils ont accès à toutes les données. Il y a quand même du chiffrement, il y a toujours la question des métadonnées, ça on est d'accord, mais il y a quand même une grosse partie de ce qui est sensible qui sera chiffré avec des clés externes de ce que j'ai compris. Donc le risque est quand même limité, à savoir qu'aujourd'hui le vrai risque dans le projet là, c'est, on prend une matrice de risque géopolitique, c'est pas les États-Unis, hein, clairement. C'est pas du tout les États-Unis qui auraient le plus à gagner à attaquer ça. Ça reste un risque quand même, mais je pense que les gens-là, en tout cas, je leur fais assez confiance pour le mitiger. Je pars pas dans des délires de non, ils sont tous débiles et ils ont pas vu que la ligne 2 y avait marqué ça. Je pense que le dossier a été étudié, je pense qu'on n'a pas tous les éléments non plus. Et le dernier point sur lequel je vais venir, j'aime beaucoup nos cloud providers. Clever Cloud fait un boulot qui est très bien. Avec la taille qu'ils ont, ils font un produit qui est assez intéressant. Pareil pour OVH, pareil pour d'autres. Même si OVH, des trucs pourraient être plus discutables. Mais à un moment, il y a aussi un double discours, il faut être honnête. Quand ils viennent, ils nous disent « Oui, on est capable d'héberger X applications, regardez, on supporte X choses que machin fait. » Trois quarts du temps, quand on creuse, c'est faux. C'est faux, soit en totalité, soit partiellement. Et là, le Data Health, ah oui, théoriquement, on pourrait le faire avec juste des machines bare métal et tout réinventer dessus, mais c'était pas le but. Et dans toutes les solutions par étagère, les fonctionnalités qu'on demande, la plupart des acteurs français l'ont pas. D'ailleurs, j'avais écrit un article là-dessus sur les fonctionnalités que j'ai minimum pour une application cloud native et surtout sécurisée. La plupart ne l'ont pas, mais moi, ce qui m'emmerde, c'est ce double discours où quand tu les vois sur les réseaux sociaux, ils arrêtent pas de vociférer pour expliquer qu'on les écoute pas, que leur solution, elle est à la limite la parfaite. Et on les choisit pas parce qu'on est tous des méchants à consommer que du pro-ricain. Bon, alors déjà, il faudra m'expliquer pourquoi OVH, ils achètent leur bagnole chez Tesla. On n'a pas de constructeur automobile en France, mais c'est une autre histoire. Mais enfin, tout ça pour dire que ce double discours, et quand on discute avec eux en privé, ils en sont conscients qu'ils sont pas au niveau. Donc, il y a une vraie... sur cette histoire, il y a un vrai capharnaüm, si j'ose dire, de coups politiques, de coups de com' de la part des acteurs qui en font un sujet horrible. Je pense qu'il y a un vrai sujet de fond. Il y a des vraies choses intéressantes, notamment à prendre du data hub sur des questions de point de vue de sécurité, de législation et aussi de durcissement. Mais malgré ça, en fait, c'est tellement dans un brouhaha de tout et de rien et de communication plus ou moins vraie ou vérifiée que c'est pas intéressant, en fait. Désolé pour mon point qui était un peu long, hein, mais...
Du coup, je vais essayer de réagir à quelque chose qui m'ont intéressé dans ce que tu disais. Je me pose la question de... Alors, je me pose la question de comment est-ce qu'on va grandir comment est-ce qu'on va faire grandir nos solutions cloud si justement il n'y a pas de commande publique, puisque a priori les acteurs ne demandent pas des subventions mais de la commande publique. Et là, en l'occurrence, la commande publique, ça fait donc le Health Data Hub, ça fait 5 ans qu'elle est chez Azure, donc ça fait 5 ans qu'elle n'est pas en France. Donc du coup, moi je me pose quand même une question, c'est comment est-ce qu'on fait pour favoriser nos acteurs locaux français français ou européen, si on n'injecte pas des capitaux et de la commande dedans. Ça, c'est un vrai enjeu. Alors là, pour le coup, c'est pas un enjeu de souveraineté numérique, c'est un enjeu d'autonomie et économique, mais c'est pas un enjeu de souveraineté numérique. Là-dessus, je me pose quand même une question. Et alors, en effet, tu soulèves le point du timing, et c'est un point qui, à mon avis, est très intéressant et très important, c'est qu'en effet, il y a des enjeux d'être prêt à l'heure. Mais moi, je me pose la question quand même, parce que je sais que mener un projet cloud d'ampleur, c'est long. Je me dis, est-ce que il y avait possibilité de faire les choses autrement, par partie, en faisant du multi-cloud. Est-ce que on pouvait prendre des briques chez un Français, d'autres chez un Allemand, et enfin certaines chez un Américain parce que elles n'existaient pas. Je me pose ces questions-là parce que c'est l'approche DevOps, l'approche itérative où on améliore constamment les choses. Le projet, il va pas être fini dans 3 mois et il va pas être envoyé dans Azure dans 3 mois. Alors, bien sûr, le SData Hub, il tourne déjà comme EMC2, c'est ça. EMC2, il hérite finalement de tout ça. Bien sûr que ça va aller plus vite. Mais je me pose quand même ces questions-là sur les choix qui sont faits et comment est-ce qu'ils sont faits. La plupart des points que tu soulèves sont très très justes mais je me pose ces questions-là quand même.
Bah, juste pour répondre, parce que j'ai en partie, je pense, des pistes dessus, hein. C'est pour l'investissement, je suis d'accord, faut investir dans la commande publique. Après, c'est toujours pareil, c'est à partir de quel moment ton acteur il est assez mature pour pas mettre en risque en fait ta commande publique. Tu vas pas commander à un petit acteur chez toi sous prétexte qu'il sait faire, mais pas à cette échelle et qui risque de se planter et que tu risques de le foutre dans la merde aussi. En fait, il y a ce niveau-là et c'est quelque chose qui est politiquement pas dur à faire. On a eu le cas, alors je suis désolé, je prends beaucoup d'exemples sur la souveraineté militaire parce que c'est un cas qui est quand même assez important en France. On a eu le cas notamment à l'époque quand on devait changer les fusils d'assaut de l'armée française. Une entreprise française s'était proposée, elle a été refusée même avant de faire son dossier. Pourquoi elle n'avait pas assez de chiffre d'affaires? Parce que les matrices de risque disaient que l'entreprise n'était pas assez grosse pour assumer une telle commande. Il y avait un risque que l'entreprise ferme et en tout cas ne puisse pas en fait répondre à cet appel d'offres. C'est un vrai problème qui existe depuis longtemps, de jusqu'où on accepte en fait qu'une entreprise française le gère, même si elle est très petite par rapport aux besoins. Et ça, j'ai pas de réponse absolue. C'est une réponse qui est politique et économique. Et je pense qu'il y a des experts qui sont bien plus forts que moi en fait pour répondre à ça. Mais faut avoir conscience de cette problématique-là, du à qui on conçoit ça. Et pour avoir vu pas mal de projets, l'État pousse quand même, notamment avec tout ce qui est SecNum Cloud, etc., sur des acteurs FR, sur des projets de plus petite ampleur, ou en tout cas où il y a des capacités, où il y aura moins de mise en péril possible. Donc je pense que ça se fait, mais on commence avec des petits projets, ce qui est une bonne chose. Et pour du coup, ton deuxième point... Merde, c'était sur quoi?
Sur l'itération, le mode DevOps, tout ça. Parce qu'on est, c'est un podcast DevOps, donc du coup,
ouais.
L'amélioration continue, tu vois. Multi-cloud, oui. Etc.
Ben, j'en ai discuté un peu avec des gens. Moi, j'ai entendu des discussions et j'ai vu des discussions vite fait avec des gens qui étaient en interne, notamment. Ce qui donne un point de vue assez intéressant, en fait, au-delà de tout ce qu'on entend sur les réseaux. Et au final, je pense qu'un projet comme ça, comme je disais, il y a une grosse importance plus qu'on le pense en fait de la sécurité. Sauf que nous, on voit la sécurité de manière assez caricaturale, notamment avec l'histoire de Microsoft. Et de ce que j'ai compris, c'est un projet qui est extrêmement compliqué, notamment d'un point de vue sécurité, avec les list privilege sur tous les niveaux, des autorisations de clés, etc. Et faire du multi-cloud, je pense que ça aurait encore ajouté tellement de risques que ça n'a pas été fait dans la V1. Après, je n'ai pas demandé, je sais pas comment c'est géré au niveau PRA, etc. Mais encore une fois, je doute pas que ça soit géré. À un moment, je suis quand même assez confiant pour qu'il y ait des gens qui sachent faire leur métier. Et des gens qui étaient dessus m'avaient l'air tout à fait compétents là-dessus. Je pense qu'à terme, ça va évoluer. Clairement, si un jour on peut arriver sur une solution multi-cloud avec que des clouds européens, ça serait très bien. Mais oui, ça sera pas demain.
Oui, tu soulèves un point qui pour moi est essentiel. Tu parles de sécurité et tu parles de technicité. Et en fait, c'est en effet ce qui a été dans le rapport. Et moi, je n'ai aucun problème à ce qu'on dise ça. Ce qui m'embête plus à titre personnel, c'est que la CNIL valide ça sur un domaine qui n'est techniquement pas le sien, puisque elle va valider plutôt l'aspect légal que l'aspect technique. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, moi, ça m'embête un peu cette décision de la CNIL pour tous les impacts qui pourraient arriver derrière sur, législativement parlant, est-ce que ça va pas ouvrir la voie à d'autres trucs? Et je suis d'accord avec toi que les problèmes de sécurité, c'est possiblement et très certainement pas avec les Américains qu'on va les avoir, mais avec d'autres nations.
Mais j'ai une question, parce que j'avoue que je l'ai pas lu le rapport. En fait, j'ai vu tellement passer de brouhaha là-dessus, comme j'ai dit, que j'ai très vite saturé parce que je préférais discuter avec les personnes individuellement de tout ça. Mmh. Je trouvais que c'était beaucoup plus enrichissant. Mmh. Mais du coup, dans ce rapport, est-ce que la CNIL, elle valide l'aspect technique directement, ou elle se repose sur des rapports d'autres acteurs comme l'ANSSI ou autres pour dire ça répond en fait à nos problématiques, on va dire plus high level, en tout cas plus côté besoin.
D'article, alors moi j'ai pas lu l'arrêté de la CNIL, j'ai lu l'article, faudrait peut-être que j'aille lire l'arrêté de la CNIL, mais la CNIL dit bien qu'elle se base sur un rapport qui lui a été fourni par l'administration française, donc la task force que je t'ai donnée, et c'est ce rapport qui dit que techniquement c'est pas abouti. Mais elle ne juge pas le fait législatif, elle juge elle accepte le fait technique. Elle aurait très bien pu se contenter, alors je sais pas si elle peut, mais elle aurait très bien pu se contenter de dire OK, nous on pense que c'est pas une bonne idée parce que ça respecte pas la législation et faites-en ce que vous voulez. Mais elle a décidé de valider ça pour 3 ans. Donc on verra ce qui se passe dans 3 ans sur un aspect technique. C'est ça ma crainte. Parce que moi, c'est l'aspect souveraineté, c'est l'aspect législatif de la souveraineté qui m'intéresse, et non pas l'aspect autonomie numérique. Ça, c'est encore un autre débat que je laisse volontairement de côté. Et l'aspect sécurité que tu soulèves est très important. Mais moi, mon point, en l'occurrence, pour faire cette chronique, c'est l'aspect législatif. Parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de souveraineté numérique, il y a l'aspect autonomie numérique qui est mélangé avec l'aspect législatif. Et je voudrais rappeler ce point-là aussi. On a un peu lâché Erwan et Rodé, vous voulez peut-être réintervenir dans la discussion et le débat.
Moi, j'ai pas. Enfin, vous avez plutôt bien reparlé de tout le sujet. Je voudrais juste rebondir sur 2-3 trucs que Damir a évoqué. Dans ma remarque, je remettais pas en doute le fait qu'il y ait des gens dont c'est le métier, tu vois, qui prennent les décisions au mieux qu'ils peuvent. Hein. J'espère en tout cas que c'est le cas.
Je parlais pas forcément de toi, juste en t'inquiète.
Mais par contre, là où moi je suis interpellé, c'est que c'est pas la première fois qu'on a ce genre de son de cloche en fait, et de ce côté un peu obscur et de ce côté vraiment où la concertation est pas visiblement de mise, et du coup ça, et surtout ça vient toujours avec l'argument technique, genre vous savez pas faire, donc on va forcément chercher ailleurs, honnêtement je connais pas tous les détails techniques, mais je comprends qu'avec ce que tu évoquais, que peut-être effectivement les providers en France, ils sont peut-être pas tous alignés sur ces requirements, mais en fait tu vois, j'ai du mal à croire que c'est à chaque fois le même pattern, tu vois, pour tous les projets. Et c'est peut-être que ce que tu disais sur les plus petits projets, on arrive à pousser des providers français, c'est cool, etc. Et tant mieux. Mais tu vois, il y a quand même un pattern récurrent qui fait un peu flipper, et comme le disait Christophe, en fait, si tu fais jamais d'appel là-dessus, en fait, il y a aucune raison de progresser sur le sujet non plus, quoi. Donc bon, tout ça pour dire que moi c'est plus le côté obscur de la prise de décision, et effectivement tu as raison, la grosse info que j'ai vu passer là-dessus, c'est un post de Quentin Adam qui reprenait les différents trucs, et donc du coup qui est biaisé, parce que forcément, voilà, vu sa position, ça joue. Mais tu vois, c'est quand même pas la première fois qu'on en parle, avec vraiment des situations très très similaires. Et c'est, moi, je trouve que c'est plus ça qui interroge. Après. Je rejoins ce que tu mettais en avant, et j'ai pas de choses à rajouter.
René?
Non, je crois que vous avez tout dit, hein, je vais pas plus m'étendre.
Est-ce que ça vous intéresse qu'on ouvre un peu la discussion en parlant des possibles voies de financement du cloud pour sortir justement de cette impasse ou pas?
Est-ce que ça risque pas de faire un peu long pour nos auditeurs, et ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode?
Je sais pas. Je peux peut-être poser un point et sonder ce que vous en pensez, et puis si ça vous dit, on en refera une autre discussion. Est-ce que je vous ai déjà parlé de l'exception culturelle 1, 2, 3, l'exception culturelle française et du financement du cinéma. Est-ce que ça vous intéresse que je vous en parle ça. Donc l'exception culturelle française que le monde entier nous envie, c'est comment est-ce qu'on arrive à financer notre cinéma, le cinéma français qui est l'un des plus vigoureux au monde, étant donné la taille de notre pays et qui nous permet justement d'étendre notre culture. En fait, il y a une voie de financement qui est très vertueuse en France, qui est gérée par le CNC. C'est qu'en fait, sur chaque place de cinéma, sur chaque place de ciné, il y a une part qui est prise et qui est envoyée au CNC. Quel que soit le film qu'on voit et quelle que soit la nationalité de ce film, il y a une part qui revient au CNC. Et le CNC utilise cette manne financière pour financer le cinéma français. Donc ça, c'est très vertueux. Il y a aussi d'autres trucs qui permettent de sauvegarder les salles de cinéma en France, mais ça, c'est pas le sujet. Et moi, je trouve que ce mode de financement-là, il est assez intéressant et potentiellement, il pourrait être mis en place pour des domaines comme le cloud ou des domaines qui ont besoin de R&D importantes. Puisqu'on pourrait très bien imaginer une taxe au paiement, en fait, au cloud provider, qui soit une TVA différenciée, hein, tout simplement, qui reviennent dans les poches d'un centre national du numérique, je sais pas, et qui après le redirige vers des acteurs français pour financer la R&D dans le numérique et dans le cloud. Ça, c'est une piste de réflexion que j'ai, étant donné je suis un grand fan de cinéma, je me disais que j'allais peut-être vous soumettre cette idée. Je vous sens perplexe.
Je t'avoue que pour le cinéma, elle est très bien, et c'est très bien que le cinéma français puisse être financé. Après, moi, de mon point de vue, le cinéma reste un cas à part. C'est quand même un cas culturel. C'est quelque chose d'assez spécifique. Je suis pas très fan de faire le parallèle direct avec, le monde du cloud. Au-delà du fait de rajouter une taxe, moi, ce qui me fatigue un petit peu, mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Le problème, pour moi, c'est que autant un film, culturellement, ça peut s'expliquer qu'un film soit fait, même s'il n'est pas rentable. Autant pour un cloud provider, pour moi, il faut qu'il arrive à se rentabiliser pour lui-même. Et on n'a pas spécialement aujourd'hui... En réalité, je pense vraiment que si OVH avait fait d'autres choix, je pense qu'il y a eu un gros problème stratégique, hein, mais je prends l'exemple là, parce que pour moi, il est assez bon. Si OVH avait d'autres choix aujourd'hui, il serait pas au niveau d'un AWS, mais il serait beaucoup plus loin. On peut arriver à faire émerger des acteurs sans pour autant leur donner, on va dire, des subventions sans autres échanges. Aujourd'hui, il commence à avoir des commandes publiques qui passent, il commence à avoir du SecNum Cloud et des choses qui vont forcer à aller chez le provider. C'est pour moi déjà énormément, et je pense qu'avec l'argent-là, ils ont de quoi continuer à se développer. Ce qui manque, c'est souvent plus du temps pour développer les choses et de gérer, on va dire un historique. Mais j'ai vraiment un doute que quelque chose comme ça aide sur le long terme. Je préfère que nos acteurs montent par eux-mêmes. C'est ce qui arrive avec Scaleway, qui quand même est parti de pas grand-chose, mais il y a maintenant quelques années, il commence à monter. OVH essaye d'aller dans la bonne voie. Il y a plein d'acteurs qui avancent comme ça, et je préfère qu'ils arrivent à se rentabiliser aujourd'hui. Il y a plein de clients aujourd'hui ou de choses qui sont poussés sur des petits providers comme ça et qui vont rapporter de l'argent. Le cinéma, c'est un peu moins le cas. On peut pas se dire, le film, il rapportera un peu avec des petits, des petits festivals, etc. Et après, il rapportera plus. C'est pas le même rythme de production. C'est pas la même chose. C'est pas en évolution continue. Au niveau du produit, je trouve que c'est pas adapté.
Ouais, moi, je suis pas convaincu que c'est un problème forcément de financement et, qu'il y ait besoin de solutions comme ça pour financer. Après, si les Américains le font, hein, ils donnent à leurs acteurs nationaux de la commande publique, et il faudrait qu'on fasse de même. Inciter beaucoup plus ça. Après, effectivement, c'est pas simple, parce que quand la technique en face, elle suit pas forcément. Il y a aussi la contrainte de temps, ce que vous avez dit. Donc, à un moment, faut quand même y aller. Pas un cercle vicieux, tout ça.
Erwan, t'as un avis là-dessus ?
Moi, j'ai trop rien à ajouter. J'ai pas trop. C'est une bonne question de comment on pourrait mieux financer tout ça, mais j'avoue que je connais pas assez bien pour avoir un avis pertinent à partager.
Bon, Sinon, René, je te confirme, pour être tout petit, on a besoin de financement pour faire de la recherche et développement. C'est essentiel parce que quand on fait de la recherche et développement, on n'a pas de clients encore. Mais du coup, on fait comment pour payer les salaires? Donc, nous, c'est une grande question pour nous. Un jour, il faudra qu'on parle de la commande publique dans la course à l'espace que mènent les Américains. Mais ça, ce sera pour un autre épisode peut-être. Toi, si tu nous écoutes et que tu veux et que tu nous vois sur YouTube et que tu veux avoir le swag des compagnons comme moi, justement, je prépare la boutique et j'espère pouvoir la lancer cette année. Donc, si ça t'intéresse de pouvoir acheter des suites, des tasses, etc., tu peux t'inscrire sur la liste d'attente. En plus, tu auras une réduction au lancement de la boutique. Donc, tu peux trouver le lien en description. Sinon, c'est bref.lydra.fr/cddgoodies. C'est facile à retenir. Bon, la section que tout le monde attendait, c'était les outils. Sans trêve de bavardage, Erwan, tu vas nous parler de deux petits outils.
Ouais, alors la curation n'est pas de moi, mais de Thomas du forum, donc à qui on remercie les pour les liens, et il a partagé deux outils écrits en Rust par la même personne qui s'appelle DUsage et MUsage, qui sont en fait des alternatives respectives à DF, enfin la commande DF que vous connaissez tous, et à la commande free. Et qu'est-ce que ça apporte? En fait, c'est des outputs un peu plus sympas. Il y a un look and feel un peu différent, des options un petit peu différentes. C'est pas game changer clairement, mais il y a des trucs assez sympas, et ce que je disais avant qu'on commence à démarrer le podcast, pour la commande des usage, il y a un truc qui est plutôt cool, c'est-à-dire que l'output visuel qui est avec des petites barres pour vous montrer à combien vous êtes vous êtes chargé, en gros, vous utilisez vos partitions, pardon. Il y a une option copy friendly qui vous permet d'exporter facilement tout ça avec les petites barres et tout, que vous pouvez copier-coller dans n'importe où. Donc, c'est toujours très appréciable. Donc, merci Thomas pour la suggestion, et c'est des petits outils qui payent pas de mine, mais pratiques.
Exact. Je précise que Thomas est mon associé au sein de l'Hydra. Alors, moi, je vais vous parler. Excusez-moi. Fouf. je parle d'un outil alors qu'en fait, on n'avait pas réagi sur ces outils. Du coup, moi, je les trouve très jolis. Je sais pas si je vais remplacer DUsage parce que j'utilise déjà DFC, mais MUsage, pourquoi pas. Et je vais laisser la parole à René.
Ah, pareil, ouais, je pense que MUsage a l'air sympa. Effectivement, ils sont plutôt jolis. Et oui, ça va peut-être pas changer nos habitudes, mais bon, voilà, c'est plutôt sympa à voir. Puis je pense que c'est des projets qui ont aussi un intérêt si les gens veulent contribuer. C'est pas forcément des très très gros projets, donc ça peut être aussi sympa de contribuer à, ou du moins pour Damir, si tu veux te mettre au Rust, peut-être que tu pourras regarder ces projets, tu verras, c'est pas mal.
Ouais, c'est des petits bons petits projets pour commencer. Mais du coup, de mon côté, non, les outils ont l'air cool, l'affichage a l'air sympa, et les petites options qui sont assez pratiques. Malheureusement, c'est toujours un peu le même problème avec moi, ces usages-là. Je sais qu'il y a aussi il y avait une alternative qui était sortie en Rust aussi, je crois, de la commande TAR notamment. CAT, il n'y a pas longtemps. Et c'était BAT ou je ne sais plus comment. Mais ce qui m'embête un peu avec tout ça, c'est que ça m'emmerde de remplacer ça sur des serveurs. En fait, ça rajoute des actions, ça rajoute surtout des binaires en plus, des choses en plus à maintenir, etc. Donc, je suis toujours un peu mitigé, en fait, à mettre ça sur des serveurs, globalement. Et au final, je me retrouve souvent à ne pas les déployer et avec les outils classiques.
Je suis assez d'accord avec toi et je te confirme, c'est BAT. Moi, je vais vous parler. J'aurais pu vous parler de MAN parce que je vois beaucoup de mes collègues ou d'autres personnes qui font des recherches grâce à ChatGPT pour savoir comment marche tel ou tel truc. Et c'est oublié qu'en fait l'IA, ça consomme un gouffre. Voilà. Par contre, on a un outil qui est en ligne de commande qui s'appelle MAN, qui est très bien, mais qui est un peu indigeste. Et justement, là, je vais te parler de TLDR. Too long, don't read. Mais TLDR, ça fournit en fait un client, et c'est aussi un site internet, et ça te fournit des pages de manuels qui sont simplifiées et gérées par la communauté, mais surtout qui présentent des exemples, parce que les pages de manuels de MAN, ça présente finalement peu d'exemples et c'est, comme je le disais, assez indigeste, ça t'explique tout ce que fait le truc, mais ça te dit pas, oh, si tu fais telle ligne de commande, ça fait ça, et si tu fais telle ligne de commande, ça fait ça. Et donc, TLDR le fait, donc c'est tldr.sh, tu auras le lien, pareil, en description. Que pensez-vous de ce petit outil, justement?
Moi, je trouve ça très bien parce que le apprendre via les exemples, c'est souvent plus impactant. Donc, c'est cool d'avoir ce genre de truc. Et puis, quand on voit des pages de man type TAR, avec 12 milliards d'options, etc., bah, c'est quand même bien sympa d'avoir ce genre de petite alternative.
Ouais, c'est plutôt pas mal, surtout que des fois, effectivement, les man patch, c'est... ça manque un peu d'exemples parfois. Donc, c'est plutôt une bonne chose.
Oui, non, mais c'est vrai que bah, des exemples surtout pratiques. On va prendre l'exemple de la commande TAR. Hein. Souvent, quand on cherche c'est comment extraire ou comment ne pas extraire, moi, hein, comment créer une archive, et c'est un peu galère de se retrouver avec des TLDR. C'est un peu plus, on va dire, efficace au quotidien.
Eh bien, René, tu vas nous parler d'un autre outil.
Alors, une fois n'est pas coutume, c'est pas forcément un outil, c'est plutôt une vidéo. Une vidéo que j'ai trouvée assez intéressante parce que ça parle de Solid. Donc Solid, c'est un acronyme. Dans le développement, ça regroupe un certain nombre de bonnes pratiques pour la programmation orientée objet. Et c'est vrai que souvent, bah, ces différentes bonnes pratiques, c'est pas toujours facile c'est assez théorique, on a du mal un petit peu à cerner ce que ça fait. Et là, bah, dans cette vidéo, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que bah, c'est mis en pratique avec un exemple concret. Et donc, ça aide à illustrer un petit peu ces différentes bonnes pratiques. Et j'ai trouvé la vidéo plutôt pas mal, donc bah voilà, je voulais la partager ici. Et je vais pas me lancer dans ce qui est Solid plus détaillé, sauf si vous voulez, si vous avez des questions. Voilà, je vous laisse la main, puis on pourra en parler si vous voulez.
Ouais, j'ai une question. Est-ce que Solid c'est adapté au code d'infrastructure?
Si c'est du code objet, je pense que c'est des bonnes pratiques qui s'appliquent à pratiquement tous les codes. C'est-à-dire que à partir du moment où le langage a suffisamment de fonctionnalités, on va dire. Mais oui, je pense que ça s'applique de manière globale à comment structurer son code. Et par exemple, bah, le premier, le S, je voulais pas forcément rentrer là-dedans, mais c'est s'assurer que une classe fait des choses de manière comment dire,
t'es pas obligé de rentrer dans le détail, hein, mais à partir
non mais c'est, je voulais juste dire ça,
fait une tâche unique,
voilà, fait une tâche unique en fait. Donc du coup, essayer de d'avoir des méthodes qui sont relativement simples et qui font qu'une seule chose et la font bien, et essayer de séparer, éviter d'avoir des méthodes qui font 15 000 trucs en même temps, qui deviennent un petit peu spaghetti, on a du mal à trouver voilà, qu'ils deviennent complexes. Je pense que c'est quelque chose qui s'applique à quel que soit le langage, quel que soit ce que tu fais en fait.
Mmh. Eh ben merci.
Juste ouais. Un petit truc peut-être en plus, pardon. Voilà, après c'est des bonnes pratiques, c'est pas non plus je sais pas comment dire, faut pas non plus flageller jusqu'à la mort parce qu'on n'a pas respecté un truc. Voilà, c'est je pense c'est des pistes, ça donne des idées, ça permet de rendre le code beaucoup plus agréable et maintenable. Après oui, parfois dans certains cas on peut déroger toujours un petit peu aux règles, hein, c'est voilà.
C'est pas un absolu quoi.
C'est pas forcément un absolu, non. De mon point de vue, après, il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord avec ça.
On t'en trouvera sûrement. Mais moi, bah, en tout cas, de mon côté, non, je trouve ça. En fait, ce que je trouve cool, c'est les exemples. Parce que pour la petite anecdote, quand j'étais dev, quand j'ai fait mes études de dev au tout début, et qu'on commence à apprendre des structurations, etc., on apprend les patterns, notamment ce qui est le pattern MVC. Et j'avais écouté deux heures de cours en amphi, j'avais rien compris. J'étais perdu, j'étais en mode, mais concrètement, ça fait quoi dans mon code? J'ai passé, je crois, 5-6 heures jusqu'à 2 heures du matin, le soir même, à essayer de dev en utilisant ce pattern-là. et j'ai fini par en fait me faire mon propre exemple, et en faisant mon exemple j'ai compris, et c'est là que je me suis rendu compte que parfois ben, quand on a les exemples d'application on comprend beaucoup mieux l'intérêt d'avoir les choses, et du coup si là il le fait en vidéo ben, c'est nickel pour expliquer ça, et surtout que la personne voit concrètement à quoi ça ressemble dans du code quoi.
Ça...
Juste pour ajouter, voilà, la personne c'est un ancien professeur qui a aussi travaillé dans l'industrie. Du coup, il cherche justement à être à la fois, bah, je pense qu'il a des bonnes méthodes pour enseigner, et mais aussi, voilà, je trouve qu'il reste dans le monde un peu industriel. Il montre des cas un peu concrets de code métier, quoi.
Moi, je veux juste réagir sur ce que dit Damir et je laisserai la parole à Erwan. Je trouve qu'on est dans une époque formidable où justement, il y a des gens comme ça et comme nous qui créons du contenu sur YouTube et autres et qui est accessible. Moi, quand j'étais en train d'apprendre en BTS l'informatique, j'avais Netscape avec une page qui prenait 30 secondes à une minute à s'afficher. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et encore, j'avais le droit à genre 10-20 minutes à la pause parce que on avait une station Sun dans la classe où j'étais qui était connectée à Internet, mais sinon nulle part ailleurs j'avais accès à Internet. Et aujourd'hui, tout est accessible. C'est vraiment une période merveilleuse pour apprendre des trucs complexes. Parce qu'en plus des bouquins, on a des gens qui peuvent nous expliquer et qui peuvent revenir la semaine d'après réexpliquer des choses. Je trouve ça merveilleux. Bref, je m'extasiais là-dessus, et du coup, je vais laisser la parole à Erwan.
Ah oui, j'ai trop rien à ajouter, ne serait-ce que tous ces, effectivement, comme tu dis, tous ces créateurs de contenu qui sont didactiques et qui permettent d'aider les gens à être plus à l'aise sur un sujet, franchement, c'est cool, et donc on ne peut que saluer ce genre d'initiative.
Je voulais juste ajouter qu'il y a plein de... Voilà, la personne fait cette vidéo-là, mais voilà, il y a plein d'autres vidéos sur certains design patterns, sur plein de choses, enfin sur justement du design d'application. Et j'ai pas tout vu, mais je pense que c'est plutôt pas mal.
Merci René. Damir, c'est toi qui as le dernier outil.
Ouais, on reste la tête dans le cloud et le nez dans le code. Et je vais vous parler du coup d'une petite lib Python pour changer, qui est KR8S, du coup qui est une lib de client cube en Python. Même si je fais plus trop de Python, d'une fois j'étais tombé dessus en voulant faire un petit truc de mon côté. Et c'est une lib en fait qui est faite pour interagir avec vos clusters Kubernetes et qui est assez... que je trouve vachement clair en fait. Souvent, bah, je tombe sur des libs ou je vois des libs où bah, ça prend quand même un temps d'adaptation, de s'y retrouver, de retrouver ses enfants et tout, surtout quand c'est quelque chose qu'on a déjà l'habitude de manipuler par d'autres outils. Et là, bah, si vous êtes habitué à kubectl, vous retrouvez bah, plein de principes, vous retrouvez plein de logiques, etc., avec les get et tout ce qui s'ensuit. Et pour le coup, c'est super bien foutu, ça marche, ça juste marche. Donc si vous avez des petits besoins là-dessus, c'est toujours top.
Merci, je me demande comment ça se prononce. J'hésitais sur le prononcer Kreist ou Kreist.
Ouais, c'est pour ça que j'ai pas pris de risque, je l'ai dit d'être par l'aise.
C'est dur. J'ai pas bien saisi le cas d'usage qu'on pourrait avoir par rapport à du kubectl ou du Helm. Est-ce que c'est pour programmer des choses qui vont créer des ressources Kubernetes?
Bah en fait, tu peux interagir avec ton cluster, donc tu peux lister. Imaginons si tu voudrais lister quelque chose de précis pour un autre besoin, etc., d'un script d'audit, bah tu pourrais le faire. Tu peux créer des ressources, tu peux scale du déploiement, up ou down, si jamais, imaginons, tu voudrais scale en fonction de quelque chose qui est totalement externe à Kube ou autre, bah tu pourrais le faire comme ça. Tu peux vraiment faire bah, tout ce que tu peux faire avec kubectl, mais en programmatique. Donc c'est intéressant comme glue quand tu as déjà un programme qui fait quelque chose et qui doit interagir avec Kube, ce qui arrive quand même assez régulièrement au final.
Surtout il y a un exemple... Oh, excuse-moi René.
Non, c'est juste pour dire, surtout c'est du Python.
Oui. Moi, je voulais juste ajouter qu'il y a un exemple à la fin du README sur pour faire du port forward d'un pod qui est typiquement le genre de cas où c'est hyper utile parce que du coup tu crées ton port forward, tu fais tous tes trucs que t'as envie via ce que tu viens de créer et après tu le fermes et ça tu le fait de pouvoir l'automatiser, le scripter ainsi, c'est hyper intéressant.
Ouais, faut vraiment que je me mette à Python, du coup. Je m'aperçois qu'il y a plein de trucs à faire en Python. Eh bien, merci. Eh bien, toi qui nous écoutes, si tu veux discuter, parce que c'est bien de consommer du contenu dont on a parlé, etc., mais tu peux avoir envie de discuter, que ce soit avec nous ou avec d'autres professionnels de la tech et du cloud et du DevOps, eh ben tu peux rejoindre la communauté et on a un forum sur lequel on discute, puisque chez nous c'est un forum et pas un Discord ou un Slack, mais c'est un forum. Ça permet des discussions plus posées, plus profondes et surtout mieux classées, je trouve, à titre personnel. Eh ben tu peux venir, il suffit de t'inscrire. Tu trouveras le lien en description, sinon tu vas sur compagnon-devops.fr, hein, c'est le point central et tu trouveras tout ce qu'il te faut pour justement rejoindre la communauté. Et c'est le moment où je me retourne vers mes podcasters et je vous remercie encore une fois du temps que vous avez consacré à cet épisode de podcast, surtout que ça fait 1h34 qu'on enregistre et un peu plus qu'on est ensemble. Donc je vous remercie à nouveau et puis je vais vous laisser la parole pour le mot de la fin traditionnel et je ne commencerai pas par René mais par Tamir.
Merci de nous avoir écoutés et puis je dirais que la leçon, moi en tout cas ce que j'en retiens, c'est que si jamais vous êtes présent sur X ou autre pour faire votre veille, essayez de pas trop vous faire emporter par le brouhaha de choses qui sont plus ou moins vraies ou plus ou moins utiles, essayez de vous concentrer sur les faits, les choses qui sont intéressantes et qui peuvent vous apporter quelque chose. Voilà.
Erwan, je t'en prie.
Eh ben, le mot de la fin sera tasse, enfin ou mug, enfin comme vous voulez. C'était cool.
René, à toi le mot de la fin de la fin.
Eh ben, j'espère que vous apprécierez l'épisode et je me pose la question, peut-on appliquer les principes solides au HDH ? Si vous avez la réponse, mettez ça en commentaire sur les compagnons du DevOps, mais ça risque d'être assez long.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.